Pulsen. Pulsan, pulsar, pulsation. Pulsan, l'émission de la SAN. Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Ulsan, l'émission radio de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes, en direct sur Alternet. Bonsoir, chers amis. Loin de la bêtise et de la corruption, voici l'air pur de la science, voici l'astronomie, la reine des sciences. Avec nous en direct ce soir sur Alternante 98.1, 10 fois la constante de gravitation, à Nantes et 91 à Saint-Nazaire, Trignac. Ce soir, qu'entendrez-nous? Eh bien, d'abord l'astronomie des Mayas, les Aztèques, loin de la vache folle, et Inca, avec Frédéric Cavagnier. Christian Scotta nous parlera de la place de la Terre dans l'univers au cours de l'histoire. Daniel Werling fera une présentation de la semaine de l'astronomie, en évoquant les différents thèmes abordés par les conférenciers qui interviendront cette semaine. Daniel Werling, c'est moi. Et bien sûr, nos rubriques habituelles, Véronique Dubois avec le ciel du mois, les actus astro par Fabrice Dubreuil, et un petit mot très gentil, on nous a envoyé un petit mot d'appréciation, on nous a dit « votre émission est géniale, alors j'espère qu'elle va le rester ». Merci, merci à ceux qui nous disent des choses gentilles, merci aux autres s'il y en avait. Eh bien, on tiendrait compte de leurs critiques pour toujours améliorer cette merveilleuse émission qui est faite par les astronomes amateurs, c'est-à-dire les meilleurs de la Société d'Astronomie de Nantes. Alors, sans plus attendre, nous allons passer au premier sujet de ce soir. C'est un thème historique, c'est un très joli thème, puisque l'astronomie est une science très ancienne. Et on apprend beaucoup de choses quand on étudie l'histoire, et on a vu que les anciens savaient mesurer le temps. L'astronomie a été la première horloge cosmique, la première mesure du temps. Ça a été, ça nous rappelle de temps en temps aussi que les éléments sont plus forts que l'homme. Et ma foi, ça nous ramène aux choses éternelles. On change d'échelle. Et qu'allez-vous nous dire, que vas-tu nous dire, Frédéric, ce soir sur l'astronomie des Mayas, des Aztèques et des Incas? Peut-être un petit peu les replacer, mais tu as peut-être prévu ton petit plan. Hein.
C'est surtout que déjà à l'époque, les peuples mésoaméricains, donc les Mayas, les Aztèques et les Incas, étaient extrêmement précis dans leur calcul du temps. Donc il ne suffit pas d'avoir des développements technologiques phénoménaux pour pouvoir mesurer le temps. Mais tout d'abord, je vais faire une introduction. Je vais resituer un peu les Mayas, les Incas, les Aztèques. Qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Les peuples en Amérique du Sud, où c'est qu'ils se sont situés? Alors les Mayas, ça correspond aujourd'hui au Guatémaltèque et à la péninsule du Yucatan. Un peu plus au nord, nous avions les Aztèques. C'était les Mexicains. C'est l'équivalent des Mexicains aujourd'hui. Et les Incas, c'était le Pérou d'aujourd'hui et la cordillère des Andes. C'est très important de spécifier parce que les Incas, comme ils étaient dans l'hémisphère sud, ils vont voir les saisons s'inverser. C'est très très important.
Finalement, et à faible distance des premiers.
Voilà, voilà. Donc, voilà pour le reclassement géographique. Toujours pour continuer cette petite introduction, je vais vous apprendre à compter en maya. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Les civils comptaient pour désigner l'unité de temps. Ils utilisaient le point. On ne peut pas faire plus simple. Et pour désigner 5 unités, ils utilisaient le bâton. À l'époque, l'écriture, ça n'existait pas. C'était plutôt des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes Inca, les hiéroglyphes Maya.
Ils avaient déjà inventé la numération avec des systèmes de dizaines. En fait, c'était pas des dizaines, c'était des quintaines.
Alors justement, j'y arrive. Comment comptait-il? Parce que par compter par unité ou par 5, pour compter les jours du calendrier et pour toutes les mesures du temps, les Mayas comptaient en base 20. Le kin, qui signifie le jour, un jour, est à la base de la mesure du temps. Kin, ça signifie à la fois jour, période et ça signifie aussi soleil.
Et comptez pas en base 20 parce que c'est à peu près la période de la lunaison.
Voilà, ça je vais y arriver. Alors le kin c'était un jour. Ensuite venait le winal qui équivaut à 20 kin, 20 jours. Donc le winal, on voit tout de suite que c'est l'équivalent d'un mois chez les Mayas. Ensuite venait le tun qui était égal à 18 winal. Donc là, on voit qu'il faisait une petite entorse pour la mesure du temps. C'est égal à 360 kin. Et là, on voit tout de suite qu'ils étaient très proches, qu'ils avaient une mesure du temps qui était très liée à l'année tropique. Ensuite venait le katun, qui était égal à 20 tun. Le baktun, qui était égal à 20 katun, etc., etc., etc.
Ensuite, ça y est, on va prendre le maya, là.
Voilà, voilà. On notera qu'à quelques jours près, notre calendrier actuel donc correspond à celui des Mayas, 360 jours. Alors d'après tous les écrits qu'on a, à chaque fois, on savait pas. Il y en a qui disaient 360 jours, il y en a qui disent 365 jours. Donc on va dire 360 plus 5.
On peut faire un tout petit rappel, oui. Puisque 360, effectivement, c'est également la mesure du nombre de degrés dans un cercle. Et ça vient de là. C'est parce qu'on croyait qu'il y avait 360 jours dans l'année, tandis que la Terre faisait un tour complet autour du Soleil et dessinait un cercle. Voilà. Et puis un degré, c'était un jour.
Alors, les Mayas utilisaient donc un calendrier tropique, donc au rythme des saisons. Et on voit d'ores et déjà que le winal, un mois chez les Mayas, va être une unité de mesure relativement importante. Alors après avoir reclassé géographiquement et puis vous avoir appris à mesurer le temps, quels étaient les hommes qui utilisaient ces mesures du temps? Quels étaient les astronomes de l'époque? Alors les peuples d'Amérique centrale et du Sud mêlaient science et religion. Ainsi, les hommes d'église, si on peut les appeler comme ça, s'appelaient prêtres astronomes. C'était des prêtres astronomes. Ils étaient les seuls, par rapport aux civils, à connaître le secret des astres, leurs mouvements et leurs positions relatives dans le ciel. Ils possédaient donc un véritable pouvoir que l'on pouvait, en certaines circonstances, considérer comme supérieur au chef du village ou au chef de la cité, quoi. Les prêtres astronomes avaient un rôle de prédicateur. Ils se faisaient volontiers astrologues, mais pas au sens connu aujourd'hui. Ils faisaient littéralement parler les astres, astrologues. Et les résultats étaient toujours probants. Les prêtres astronomes connaissaient le lever et le coucher du soleil, le cycle des planètes comme Vénus, les saisons, etc. Ils avaient alors plus un rôle de prévisionniste météorologique qu'astrologue au sens commun du terme. Leur voix était entendue et écoutée très attentivement par les artisans, les agriculteurs, et puis aussi les femmes enceintes. Je vous expliquerai plus tard pourquoi.
C'est pour pas que je t'interrompe.
Voilà. Ce dont avaient peur les prêtres astronomes, c'était les phénomènes célestes difficilement prévisibles, inattendus ou menaçant le soleil, l'astre qui donne la vie. Ainsi que la fin de certaines périodes du calendrier. Comme par exemple, alors pour donner des exemples de phénomènes inattendus, les comètes, les éclipses ou le dernier jour du mois en cours. C'était des exemples où là, il se passait quelque chose. Et quand les prêtres astronomes ont peur, la population a peur. Une certaine classe de personnages était spécifique aux Incas, les Cuipumacox. Les Cuipumacox tenaient les comptes du calendrier et de l'administration.
On rigole pas. Hein.
Ouais. Les Cuipumacox, oui, j'ai bien dit.
Il a l'accent.
Ah oui, ouais.
Mais ce ne sont pas des insectes.
Et ce ne sont pas des insectes. C'était en fait les mathématiciens de l'époque qui occupaient une place équivalente aux scribes en Égypte. Les Cuipumacox tenaient à jour les quipus, sorte de cordelettes où des nœuds sur ces cordelettes représentaient les comptes, aussi bien l'administration que pour tenir le temps, les comptes du temps. Ces spécialistes montrent que les peuples mésoaméricains étaient extrêmement précis dans leurs calculs. Donc, après avoir vous...
D'où l'expression « faut pas pousser ».
Voilà, faut pas pousser, oui. Alors, je vais vous parler un peu cosmologie. Quelle importance avait l'univers pour les Mayas? Alors, par défaut, je parlerai des Mayas. Hein. Quand il s'agira de parler des Aztèques ou des Incas, je le spécifierai. Mais par défaut, ce sera les Mayas. Alors, la cosmologie. La cosmologie des Mayas repose sur une communion entre ce qui les entoure, les animaux, la flore, la religion, les différents états de l'homme, comme la colère, la mort, et les phénomènes célestes. Ainsi, pour eux, la Terre est plate et est représentée par le dos d'un crocodile. Le ciel, Kaab, en maya, le ciel, est la peau tachetée d'un jaguar. C'est très poétique.
Ça vaut le parapluie troué de Gottlieb. Hein.
Oui. Ah oui, carrément. Et Ek signifie étoile en maya. Et ça veut dire aussi tache sur peau de jaguar. Bon. La voûte céleste est portée par des arbres immenses appelés Seiba. Il y en a cinq. Ils soutiennent le ciel en cinq points. Les quatre points cardinaux et le centre, puisque la Terre est plate. La Terre est elle-même soutenue par des géants, appelés Bacab, équivalent aux titans de la Grèce mythologique. Pour les Mayas, il faut donc respecter chacun de ces éléments. Il faut respecter chacun de ces éléments. Le ciel, quant à lui, abrite 13 mondes célestes. Ou, attention, Oxlauntiku. Les Oxlauntiku.
T'es un virtuose, hein.
Oui. À l'image des 13 dieux mayas. Le monde du zénith, le 7e, abrite Oméotl, le dieu originel, qui est à la fois homme et femme.
Comme les limaces.
Voilà. Ils sont hermaphrodites. La Terre abrite 9 mondes souterrains, froids, les Bolontiku. C'est très important de préciser ça, parce que lorsque le soleil se couche, pour les Mayas, lorsque le soleil se couche, il a traversé les 13 mondes célestes, et pour pénétrer dans les 9 mondes des morts, il doit se rendre squelettique pour affronter le froid mortel, à la manière des hommes qui meurent. Cependant, la différence entre le soleil et l'homme, c'est que le soleil réapparaît. Et au petit matin, il faut alors qu'il soit vivifié pour pouvoir traverser à nouveau le ciel. Et là, on va tomber rapidement dans le macabre, c'est qu'il fallait très souvent, fréquemment, des sacrifices matinaux. Pour pouvoir vivifier le soleil. Pour qu'il revive.
Et rendre la vie au soleil avec finalement de la vie, voilà. La vie humaine.
Voilà. Ouais. Voilà.
C'est épouvantable.
C'est très émouvant.
Et tu en parleras peut-être tout à l'heure, mais les éclipses, alors, c'est pour ça qu'ils en avaient tellement peur, parce que finalement le soleil devient noir quand il passe dans le royaume des morts, mais s'il devient noir avant...
Tout ce qui menace le soleil, de toute façon, c'est porteur de... C'est de mauvais augure. Et les éclipses, c'est carrément la fin du monde. Je vais vous expliquer. Mais après ce bref point de cosmologie, je vais vous parler maintenant des calendriers. Alors, pour les calendriers, les prêtres astronomes utilisaient certains outils très précis. Les prêtres astronomes mayas utilisaient le dessin de deux roues dentées pour déterminer le calendrier religieux. Parce qu'ils avaient deux calendriers. Ils avaient le calendrier civil, appelé Ahab, et le calendrier religieux qui s'appelait Dzolkin. Ils faisaient correspondre, grâce à ces deux roues, donc pour le calendrier religieux, là je parle uniquement pour le Dzolkin, ils faisaient correspondre grâce à ces deux roues l'un des 13 nombres des dieux célestes à l'un des 20 dieux et déterminait ainsi le jour Dzolkin. Il y avait une troisième roue qui faisait correspondre les jours du calendrier religieux au calendrier civil. Le calendrier Ahab, lui, comptait 360 jours. La roue du calendrier civil avait 50 dedans, 13 x 4. 4 correspondant aux 4 points cardinaux. Parce que sur la route, il dessinait aussi, il représentait les points cardinaux. Et là, on voit quelque chose de très important, c'est que les Mayas ne dissociaient pas le temps de l'espace. L'idée que Einstein reprit au début du siècle.
Oui, mais c'était peut-être pas la même
perception. Mais il y a des interprétations, bon...
Mais bah, cela dit, c'est vrai que pour des peuples qui finalement pensaient que les choses étaient éternelles, le temps en fait était marqué, mais il n'avait pas non plus de limite. Hein. Il était fait finalement le temps et l'espace sont des notions qui sont a priori pas dissociables. Donc pour quelque chose d'éternel et d'infini.
Voilà, pour eux de toute façon c'était indissociable. Donc ça c'était les outils qu'utilisaient les prêtres astronomes. Et ensuite, maintenant, je vais vous expliquer en quoi ils étaient extrêmement précis dans le calcul du temps. Un jour Dzolkin s'appelle Ao, et un jour Ahab s'appelle un Pop. Encore un mot très joli. Et c'est pas le premier, c'est pas le dernier.
Enfin, ça va, c'est pas trop dur à dire.
Oui, Pop, un Pop. Chaque jour a quatre termes. Un chiffre de 1 à 13 pour le dieu du porteur du jour. le nom du dieu porteur du jour parmi 20, un chiffre pour le mois et un nom de mois. Donc il fallait tout ça pour déterminer une date du calendrier. Pour qu'un calendrier retombe sur ses pieds, il fallait 52 années Ab ou 73 années Dzolkin. Quand ce jour arrivait, on célébrait le feu nouveau. Alors qu'est-ce que le feu nouveau ? À cette date précise, quand les deux calendriers correspondent, la croyance veut que le serpent à plumes, Quetzalcoatl, qui est le messager entre le ciel et la terre, envoyé par Tonayu, le dieu soleil, utilise le sang des hommes de la génération précédente pour vivifier le soleil, encore une fois, et créer la génération suivante. Alors se passait la fête du feu nouveau. Il s'agissait d'enlever le cœur avec un couteau d'obsidienne d'une victime. La victime avait au préalable la poitrine ouverte par un tisonnier. On immolait aussi des prisonniers, on s'infligeait des blessures de pénitence. C'était très très macabre.
Super.
On enfermait les femmes dans les greniers de peur qu'elles ne deviennent des bêtes féroces. Et on gardait les enfants éveillés pour pas qu'ils se transforment en rats. Donc c'était vraiment... Et puis quand les Pléiades quand les prêtres astronomes voyaient Aldébaran ou les Pléiades apparaître, bon bah là c'était fini, donc ils pouvaient reprendre une vie normale. Et là, c'était...
C'est comme la fin des guignols, ça.
Oui.
On peut reprendre une activité normale.
Voilà. Pour information, dans 13 Baktoun, c'est-à-dire dans 1 872 000 jours, c'est-à-dire ou 5125 années tropiques, le 21 décembre 2012, ce sera la fin du monde, d'après les Mayas. Donc, tous aux abris. Je vais vous parler maintenant du compte long. Alors, les Mayas ne se contentaient pas de compter donc par année, ils comptaient aussi par ère. Et là, à partir d'une date fictive, ils faisaient comme le calendrier julien, ils comptaient le nombre exact de jours. Et ils exprimaient ça par l'intermédiaire d'une stèle gravée, qui est donc pareil, les dieux, les bâtons, les points, les unités, et c'était le nom de jour exact qui était gravé. Et donc on voit des immenses stèles près des pyramides.
C'est bien, mais il ne fallait pas se gourer d'un petit bâton.
Alors, sur le calendrier, je vais parler maintenant des constellations. Les Mayas comparaient le ciel ponctué d'étoiles à la peau tachée du jaguar, comme j'ai dit. Et pour les Aztèques, c'était très joli. Les astres s'appelaient Ulol Akab, les fleurs de la nuit. Très joli.
Très joli.
Oui. L'amas des Pléiades aussi était important.
Le hibou, la nuit.
Il s'appelait Dzab-Ek, la sonnette du serpent. Pour les Aztèques, c'était la place du marché, les Pléiades. De même, la ligne du baudrier d'Orion s'appelait les petits bouts de bois pour allumer le feu. Texto.
C'est pragmatique.
Oui. Les autres constellations que l'on connaît ont été difficiles à identifier dans les documents d'époque. La Voie lactée s'appelait pour les Mayas le collier de boules de cristal.
Très poétique. Hein.
Mais dans le ciel des Incas, alors chez les Incas, c'est encore plus rigolo, les Pléiades s'appelaient le magasin, la maladie ou le tas. C'est un peu l'équivalent, comme nous on appelle indifféremment la grande ours, la casserole ou le chariot. Bon, voilà. Alors, les Mayas... les Incas aussi voyaient des figures dans les taches sombres de la Voie lactée. Ainsi, ils pouvaient voir le sac de charbon. Et dans le sac de charbon, ils pouvaient voir une perdrix, un serpent, situé entre le grand chien et la croix du sud, pour les observateurs. Alors, les objets célestes particuliers, maintenant. Les comètes portaient malheur, car ils signifiaient un événement soudain et imprévu. Pour les Aztèques, les comètes sont des étoiles fumantes. Pour les Mayas, ce sont les grandes étoiles de feu. Les étoiles filantes, elles, s'appelaient étoiles flèches. Les éclipses, elles étaient annonciatrices de fin du monde. Vénus était très important pour les Mayas, parce que c'est un astre qui passait devant le soleil et qui disparaît aussi.
Donc, il annonçait la mort quelque chose
Vénus, se trouvant plus proche du soleil que de la Terre, elle donnait l'impression de tourner autour. C'est donc un astre qui tente de masquer le soleil. Il est donc signe de mauvais présage. Après des centaines d'années d'observation, les prêtres astronomes ont pu établir la révolution synodique de Vénus, c'est-à-dire le temps que met Vénus pour revenir en conjonction avec le soleil. Pourquoi l'étoile rouge était-elle fatale ? Une bataille, par exemple, pouvait être gagnée ou perdue si elle se déroulait à un jour particulier du cycle de Vénus. Alors, je terminerai en spécifiant un détail propre aux Mayas. Enfin, on peut retrouver ça aussi chez les Égyptiens. C'est à propos de l'architecture qu'ils avaient, les pyramides. Les pyramides avaient une signification en rapport direct avec l'astronomie. Les pyramides et aussi l'emplacement des habitations dans les cités et dans les villes. Le moment où le soleil passe au zénith, c'est-à-dire où il est le plus haut dans le ciel, est important car il marque le début de la saison des pluies. De ce fait, en dehors de celles bénéficiant de mauvaises conditions topographiques, les villes étaient orientées en fonction du lever du soleil le jour de son passage au zénith. Ainsi, pour un lieu orienté à un ou deux huinal près, avant le passage du soleil au zénith, les Mayas pouvaient se préparer à la saison des pluies. À Teotihuacan, pour prendre un exemple, l'entrée du temple de Quetzalcoatl était orientée selon l'allée des morts qui mène à la ville haute. Cette direction passe exactement entre deux pyramides, et cette orientation permet de voir exactement le lever du soleil entre les deux pyramides le jour où il est le plus haut à son zénith.
Ah, tout est scientifique.
Tout est scientifique. Et en ce qui concerne les pyramides mêmes, alors là, c'était vraiment très très précis parce que c'était exactement le calendrier Maya. Sur chacune des faces des pyramides, il y avait 91 marches. Si vous multipliez par 4, ça fait 364 marches. Et vous rajoutez la face supérieure, ça fait 365, qui équivaut au nombre de jours dans l'année.
Donc
360
en fait,
plus 5.
Ils avaient un calendrier beaucoup plus précis qu'on croyait.
Voilà. Sur le toit du temple qu'il y a au-dessus de la pyramide, il y a 20 frises, soit le nombre de jours dans un mois. Chaque face comporte 9 niveaux, correspondant aux 9 mondes des morts. De chaque côté de l'escalier, ça fait 18 gradins, soit le nombre de mois par an. Et par face, on a 52 panneaux, 26 de chaque côté des marches. C'est le nombre de semaines par année.
Bah, je crois que les gens vont regarder maintenant les pyramides un peu différemment.
C'est voilà. Prodigieux. Frédéric, merci, parce que tu as eu... D'abord, t'as tenu dans un temps qui était pas très important, mais
C'est pas évident, parce qu'il y a énormément de choses à dire.
Tu as beaucoup de choses à dire. Tu l'as d'ailleurs bien dit, parce qu'il y a beaucoup de choses. Frédéric est très précis, il vous a dit que des choses vraies. Hein. Donc, tout cela, vous pouvez l'apprendre par les livres, je pense.
C'est je vous conseille de lire, si je peux faire un peu de publicité, de lire le dernier Science et Vie Junior. Il y a 5-6 pages qui sont très bien faites, qui résument un peu l'histoire des calendriers, et ça parle des Égyptiens, du temps en islam, etc.
Alors, un dernier petit mot, quand même, on ne l'a pas dit, mais les Mayas, les Aztèques, les Incas, est-ce que c'est la même époque tout ça, ou est-ce que...
Oui, c'est relativement la même époque.
C'est à peu près quelle époque?
Oui, de même qu'ils ont disparu.
C'est à peu près le Moyen-Âge, quand même.
Oui, oui. Ouais.
Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la connaissance du temps à cette époque-là, chez ces peuples-là, était relativement précise.
Très précise, oui.
Mais il ne faut pas oublier que ça correspond au Moyen-Âge en Europe, et donc ça fait bien plusieurs siècles que la même connaissance avait été élaborée par les Égyptiens et par les peuples d'Asie mineure, d'Afrique du Nord et d'Europe. Donc on peut pas dire, on sait pas d'ailleurs ce qui s'est passé avant chez les Incas, ils étaient peut-être très avancés auparavant.
Chez eux, c'était vraiment précis, quoi. Même si déjà il y avait eu des civilisations.
Enfin voilà, on a voulu replacer ça un peu dans l'époque, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à toute l'avancée de la civilisation, des civilisations d'Amérique du Sud. C'est quand même bon de le rappeler. Et bon, ça correspond aussi, il faut pas dire certains peuples sont en avance ou en retard, ça correspond peut-être également à leur vision des choses. Eux, ils voyaient l'éternité, ils voyaient pas l'intérêt d'un progrès technique comme peut-être ce qui est un peu l'avantage ou le vice des Européens, on pourrait dire. Eh bien, merci Frédéric pour cette passionnante entrevue sur des peuples qui sont à la fois connus et méconnus. Mais je crois qu'on aura d'autres chroniques dans ce style-là avec ce qu'ont fait les anciens. On en aura une d'ailleurs tout à l'heure, mais avant de passer à la suite, nous allons vous proposer une petite pause musicale. Ça tombe très bien, c'est un titre qui porte sur le temps. 20 años, c'est-à-dire 20 ans. 20 ans, c'est un peu moins que l'âge de la Sanne, qui a 30 ans cette année, de Omara Portuondo. Voilà. C'était 20 años d'Omara Portuondo pour que bien clore le magnifique sujet de Frédéric sur l'astronomie des Mayas, des Aztèques et des Incas, le rythme du temps. Eh bien oui, les 20 ans, ça passe vite, hein, mon cher Christian, puisque tout à l'heure tu vas nous parler également de l'histoire. Mais c'est le moment de qu'est-ce que se passe-t-il dans le ciel, notre rubrique « Le ciel du mois » avec Véronique Dubois. Alors, c'est ciel. Alors ma chère Véronique, nous ne sommes pas, pas peur nous, de ce qui tombe du ciel. Alors est-ce qu'il y a des choses qui vont nous tomber du ciel ce mois-ci? Est-ce qu'il y a des choses qui restent bien suspendues? Et qu'est-ce qu'on va voir dans le ciel, dans ce plafond, comment disait Frédéric, dans ce léopard tacheté?
Jaguar.
Eh bien, pas mal de choses. Pas aussi riche, je dirais, que le mois dernier, avec cette fameuse éclipse de lune que nous avons malheureusement observée sous les nuages.
Il y avait un parapluie sous le léopard tacheté.
Disons que c'était vraiment une éclipse, mais totale, par les nuages, là, pas de problème, on n'a rien vu du tout.
Hein. On en voit souvent des comme ça.
Hein. Oui, malheureusement, on n'est pas très chanceux avec le temps en ce moment. Mais je dirais que le mois à venir est quand même assez riche en conjonction. Donc, conjonction, c'est quoi? C'est un rapprochement, je dirais, visuel dans le ciel entre deux astres, entre beaucoup la Lune.
Une coïncidence, on pourrait dire.
Voilà, tout à fait.
Oui, parce que les astrologues brodent un peu ces conjonctions, hein, que ça aurait telle ou telle influence. C'est tout simplement le hasard des mouvements planétaires. Hein.
Tout à fait. D'ailleurs, je peux même vous faire une petite parenthèse là-dessus. C'est que en cours de février, là, début février, le Soleil va rentrer dans le Verseau, alors que pour les astrologues, il va rentrer dans le Scorpion.
Ça, c'est déjà la précession des équinoxes qui fait ça. Mais les astrologues disent « Oui, vous nous sortez toujours ça ». Mais enfin, bon, c'est la vérité, n'est-ce pas?
Voilà. Alors, je vais commencer tout d'abord par vous parler des neuf planètes, hein, pour voir un petit peu ce qu'on peut observer en ce moment. Alors, tout d'abord, Mercure est assez difficile à observer. Elle est repérable dans le ciel du soir, de fin janvier à début février. Et c'est une petite bille gibbeuse qu'on arrive à voir dans un instrument. Ça reste un point lumineux à l'œil. Elle réapparaîtra timide à l'aube toute fin février, parce qu'entre-temps, elle va passer tellement proche du Soleil qu'elle ne sera plus observable par nous.
On rappelle que Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil, elle n'est qu'à 50 millions de kilomètres, donc on la voit toujours noyée dans les lueurs du Soleil. C'est très difficile à distinguer de ce phare qu'est le Soleil.
Alors ensuite, on va passer à Vénus, on va s'éloigner au fur et à mesure du Soleil. Alors elle, par contre, Vénus, vous la trouverez à environ 20 degrés au-dessus de l'horizon sud-ouest, en début de la nuit noire. Son éclat est exceptionnel en ce moment, et l'observer dans un instrument vous permettra d'apprécier l'évolution de sa phase. En ce moment, elle est plutôt en dernier quartier, et elle passera en croissant mi-février. Donc je dirais, vu qu'elle est située entre le Soleil et nous, eh bien c'est comme même principe que pour la Lune, il y a différentes phases. Donc là, en ce moment, c'est plutôt un dernier quartier. On va passer ensuite à Mars, puisque la Terre est un petit peu difficile à observer de notre place. Donc pour Mars, elle par contre, elle est présente dans la constellation de la Balance. Son diamètre apparent continue à augmenter. Elle passera à son maximum en juin. Mais jusqu'à présent, enfin jusque-là, je dirais, elle va augmenter en éclat et en diamètre apparent. Donc on pourra faire de bonnes observations de sa surface, à partir de bons instruments quand même. Et on la verra se lever environ vers 2h30 du matin.
On peut rappeler que Vénus, c'est très difficile de voir sa surface parce qu'il y a plein de nuages autour.
Oui, tout à fait.
C'est pour ça d'ailleurs que Vénus est très brillante parce que les nuages sont reflètent, ils sont blancs, alors que Mars, on peut voir le sol. Voilà. Enfin, le sol. On peut voir des ombres.
Voilà, on peut voir quand même, je dirais, les gros canaux ou la calotte assez facilement avec des bons instruments. On va passer ensuite à Jupiter et Saturne, les deux géantes. Alors elles, par contre, sont toutes deux présentes dans la constellation du Taureau. Elles sont très facilement visibles dès le début de nuit, et ça très haut dans le ciel en direction du sud.
C'est là où il y a les Pléiades, le Taureau.
Voilà, tout à fait. Le Taureau est juste en dessous des Pléiades. Et je dirais, elles sont très facilement repérables car elles brillent telles deux phares dans la nuit. Par contre, Uranus, Neptune et Pluton, elles par contre, sont inobservables pour l'instant.
Parce que tout simplement, elles se lèvent le jour et elles se couchent la nuit.
Voilà,
tout le monde.
Comme tout le monde, voilà. Mais bon, malheureusement pour les astronomes, c'est pas le meilleur moment. Alors donc, les événements à venir... Je vous parlais un petit peu de la fin du mois et puis du début février. Donc beaucoup de conjonctions, c'est ce que je vous disais, de rapprochement entre la Lune et puis certaines planètes. Donc pour les amoureux des photos, c'est, de bons événements à photographier, avec un joli décor en premier plan, et puis au loin, un croissant lunaire avec une planète. C'est très joli à faire.
Et c'est pas très difficile.
Mais c'est pas très difficile. Il n'y a pas besoin, de matériel très sophistiqué. Alors le 26 janvier, on va, je dirais, ça va venir bientôt. Dans le crépuscule du soir, vous allez voir donc ce fin croissant lunaire qui se trouve à moins de 6 degrés de Mercure, à observer au-dessus de l'horizon sud-ouest dans un ciel bien dégagé. Pour vous représenter un petit peu ce que fait 6 degrés, je dirais, dans le ciel, vous prenez votre pouce, vous le mettez à longueur de bras, comme pour faire du stop, et le 6 degrés correspond à peu près à la longueur de votre pouce. Le 28 janvier, la Lune, elle, est en conjonction encore, mais avec Vénus. Dans le ciel du soir, pareil, horizon sud-ouest. Pour le mois de janvier, c'est à peu près tout, on va passer au mois de février. Et donc, on va passer le 2 février, où là, on a un rapprochement de la Lune avec Jupiter et Saturne, donc toujours ces fameuses conjonctions. Et alors, cette conjonction aura lieu dans la nuit, côté sud, sous le pavé diamanté des Pléiades, le fourmillement des Iliades et l'éclat orangé d'Aldébaran du Taureau.
Oh, le pavé diamanté des Pléiades, alors là, c'est...
Par rapport à ce que nous a parlé justement Frédéric tout à l'heure des différents noms qu'on donnait aux Pléiades, et ben voilà, moi je l'appelle le pavé diamanté.
Je crois qu'il va falloir qu'on fasse nous aussi une émission littéraire, c'est très voilà. Poétique.
C'est vrai que pavé diamantaire, c'est plus joli diamanté. Que la maladie ou le tas.
Diamanté et pas diamantaire, hein. C'est... nous ne sommes pas à Amsterdam.
Voilà, donc le 15 février on continue. Ce sera avant l'aube, donc aux alentours de 4h du matin. La planète rouge, Mars, et le dernier quartile de Lune seront, elles, par contre, dans les pinces du Scorpion, au-dessus de l'horizon sud-est. Et on finira par le 18 février, où là, c'est une conjonction, mais une occultation, où on a l'occultation de l'astéroïde Cérès par la Lune. Malheureusement, elle ne sera visible que dans le sud-ouest de la France, donc pas malheureusement pour nous.
Et puis, il faut des instruments pour cela.
Oui, il faut des instruments pour ça. Mais ça aurait valu le coup quand même.
Voilà, merci Véronique pour cette petite chronique du ciel, les choses éternelles du ciel. Enfin, éternelles, ça change tout le temps là-haut. Donc tous les mois, on aura des choses à vous raconter. Eh bien, nous allons passer au deuxième grand thème de cette soirée, l'histoire de la place de la Terre dans l'univers, avec notre ami Christian Scotta. Donc Christian, toi, tu es un amoureux de l'histoire des sciences, parce que tu sais, comme nous le savons tous d'ailleurs, que c'est de l'histoire souvent que nous tirons d'excellents enseignements pour comprendre la construction de la science actuelle, hein, pourquoi nos notions d'où viennent-elles. Alors, la Terre a occupé différentes places dans l'univers. D'abord, à un moment donné, on croyait que c'était le centre de l'univers, et puis après, elle a changé de place. Alors, tu vas nous raconter tout cela. Christian Scotta.
Donc, mon exposé pourrait s'intituler « S'affranchir des apparences ». L'homme va s'affranchir petit à petit des apparences. La première apparence, c'est la Terre qui est plate. La deuxième, c'est la Terre qui est au centre du monde. Et la troisième, c'est l'homme qui est au centre de la création. Donc, je vais commencer par la forme de la Terre. Donc, dans la haute antiquité, on a considéré que la Terre était plate. Par exemple, en Égypte, elle était rectangulaire. Dans la Bible, on dit que Dieu a déployé les cieux comme une tente au-dessus de la Terre. C'est les Grecs qui ont commencé à avoir des conceptions de la Terre différentes. Alors bien sûr, il y a eu la Terre plate, mais il y a aussi la Terre en forme de tambour, la Terre creuse, la Terre plate et infinie vers le bas, la Terre en forme de colonne, alors ça c'est Anaximandre, et enfin la Terre sphérique, c'est Pythagore.
La Terre sphérique, on le rappelle, parce que les Grecs avaient vu lors d'une éclipse de lune, que l'ombre de la Terre sur la Lune était ronde et seule une sphère pouvait donner une ombre ronde dans tous les cas de figure, on pourrait dire.
Oui, tout à fait.
Exactement. Alors Pythagore était parti, lui, d'une idée de perfection, mais effectivement, il y avait toute une série d'arguments en faveur de la Terre sphérique, donc les éclipses de Lune, l'argument aussi de la coque d'un bateau qui disparaît quand il s'éloigne du port, la coque disparaît avant le mât, comme s'il s'enfonçait dans la mer, donc la mer est sphérique, la Terre aussi. La variation de la hauteur de l'étoile polaire quand on se déplace sur la Terre. Et enfin, la chute des corps qui est toujours perpendiculaire à la surface du sol. Alors, ces arguments sont énumérés par exemple par Ptolémée à l'époque alexandrine, au IIe siècle de notre ère. Mais parallèlement à ces conceptions de Terre sphérique, donc très modernes, la conception de la Terre plate est restée chez un certain nombre de philosophes. Par exemple, Épicure croyait que la Terre était plate. Et Lucrèce, un contemporain de César, croyait aussi que la Terre était plate. Et enfin, à l'avènement du christianisme, on a condamné la sphéricité de la Terre. Et Lactance, un des pères de l'Église, a ridiculisé la théorie des antipodes. Donc il y a une sorte de retour en arrière à la fin de l'Antiquité.
Oui, puis au Moyen-Âge, effectivement, chez nous, on croyait encore que la Terre... Certains croyaient que la Terre était plate, parce que je suppose que d'autres avaient connaissance des travaux des Grecs, quand même.
Voilà, donc au Moyen-Âge, effectivement, on est revenu à l'idée de Terre sphérique, après le contact avec les Arabes à l'époque des Croisades. Et enfin, la preuve, physique, a été apportée par les voyages de Magellan, qui a fait le tour du monde en bateau.
On peut rappeler aussi que les Grecs avaient calculé quand même la circonférence de la Terre. Hein, c'est
exactement.
La fameuse expérience d'Ératosthène.
D'Ératosthène, voilà, qui avait mesuré le périmètre de la Terre. Alors d'autres mesures avaient été faites. Aristote nous en donne une qui est largement plus grande. Mais donc c'est la mesure d'Ératosthène qui a servi de base jusqu'à l'époque de Christophe Colomb. Alors l'autre apparence, c'est la Terre au centre du monde. Alors la Terre au centre du monde, c'est l'idée première, hein, puisqu'on a l'impression que les astres, on voit les astres se lever, passer au méridien et culminer donc, et puis se coucher.
C'est-à-dire le mouvement apparent des astres, comme s'ils tournaient autour de la Terre. C'est ce qu'on voit d'ailleurs.
Voilà, c'est ce que l'on voit, et donc on a considéré que ce que l'on voyait était la situation réelle de la Terre. Alors Aristote nous dit que le centre du monde coïncide avec le centre de la Terre par accident, c'est-à-dire que si on déplaçait la Terre hors du centre du monde, les objets continueraient à tomber vers le centre du monde, même si la Terre était absente. Donc pour lui, le centre du monde pourrait être occupé par un point où il n'y a rien.
Et c'était le but de tous les objets, d'atteindre le centre du monde et d'atteindre le repos, puisqu'on considérait que c'était le but ultime de tout mouvement, et c'est bien pour ça que la Terre était, je crois, considérée comme au repos.
Voilà. Donc, pour mettre la Terre en mouvement, il va falloir des spéculations. Et effectivement, on retrouve ça dès le 5e siècle avant notre ère. Certaines personnes vont mettre la Terre en mouvement. Alors, Icétas de Syracuse, par exemple, met la Terre en mouvement sur elle-même. Une simple rotation autour de son axe doit expliquer toutes les apparences. Ça marche pour le mouvement des étoiles, mais par contre pour les planètes, il ne dit pas pourquoi les planètes semblent se déplacer par rapport aux étoiles.
Puis surtout pourquoi elles font, je dirais, des fois demi-tour. Parce que dans le ciel, on peut les regarder aller...
Elles reculent des fois.
Elles reculent parfois.
Oui, parce qu'on les, en réalité, on les double. Mm. À un moment donné, oui. Alors que là, ça explique bien le mouvement diurne, voilà. La Terre sur elle-même. Mais ça explique pas non plus les différentes positions des étoiles au cours de l'année.
Mais il faut aussi savoir que quand on parle de l'Antiquité, 90% des œuvres écrites dans l'Antiquité ont été détruites et que l'on ne connaît ces conceptions que par des gens qui les ont rapportées. Et ceux qui ont rapporté les conceptions d'Icétas de Syracuse n'ont peut-être rapporté qu'une partie, et l'explication du reste a été oubliée.
Ah oui, il faut faire une enquête, voilà, remonter aux archives.
Et il nous manque une partie des éléments. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été brûlées. Hein. La grande bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée à 3 reprises, et tous les bouquins ont été perdus, pratiquement.
Oui, ça a été dramatique, ça.
L'autre philosophe, c'est Philolaos, qui a mis la Terre en mouvement. Alors lui, il pensait qu'au centre du monde, il y avait un feu. Et donc, autour de ce feu tournait une antiterre, ensuite la Terre, ensuite la Lune, le Soleil qui n'était qu'un reflet de ce feu central, et au-delà, il y avait un ciel qui était lui aussi de feu. Il fait une distinction entre la région qui est en dessous de la Lune, c'est le domaine de la génération de la corruption, et cette idée-là, on va la retrouver chez d'autres philosophes. Héraclite du Pont, entre 475 et 310, nous dit que la Terre tourne sur son axe, que Mercure et Vénus tournent autour du Soleil, mais que les autres planètes, Mars, Jupiter et Saturne, tournent autour de la Terre. Alors c'est un système que l'on a qualifié d'égyptien et qui a été repris par un autre Romain, Marcianus Capella, au 5e siècle de notre ère. Il est un peu différent du système de Tycho Brahe au 16e siècle. Et enfin, il y a Aristarque de Samos, que l'on a appelé à juste titre le Copernic de l'Antiquité, qui a placé le Soleil au centre du monde, et toutes les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil. Cette idée donc sera reprise par Copernic, avec un intervalle de plusieurs siècles. Si on n'a pas cru à son système, c'est parce que si la Terre se déplace autour du Soleil, les constellations devraient subir des déformations de la part du mouvement de la Terre autour du Soleil. Comme on n'observe pas ces déformations, on n'a pas cru au système d'Aristarque. Et en plus, il n'expliquait pas l'inégalité des saisons, puisque la Terre doit décrire un cercle autour du Soleil. Les saisons devraient être égales en durée, et on sait bien qu'elles sont inégales en durée.
Ce sont les lois de Kepler, parce qu'on tourne plus vite autour du Soleil quand on est plus près, en hiver, paradoxalement.
Alors, la rotation de la Terre, par exemple, restera quand même un sujet de débat au Moyen-Âge. On sait, par exemple, que Buridan, qui était recteur de l'Université de Paris vers 1300, ou Albert de Saxe, qui était recteur de l'Université de Vienne, vers 1365, reconnaissait qu'il était plus facile et plus rationnel de faire tourner une petite Terre que de faire tourner le ciel tout entier. Hein, c'est l'argument d'économie. Soit on imagine que c'est le ciel immense qui tourne, soit alors on imagine que c'est la Terre elle-même qui tourne.
La donc, simplicité c'est... aussi des hypothèses qui sera un gros argument repris par Galilée pour les... et dans les sciences actuelles aussi, on prend toujours l'hypothèse la plus simple, en priorité.
Voilà, et cette idée sera reprise par Copernic, et on la retrouve dans l'astronomie populaire de Camille Flammarion, qui s'amuse à calculer les distances du Soleil, des étoiles, et il dit, vous voyez, les étoiles devraient tourner à des vitesses incroyables, phénoménales, presque infinies. Donc effectivement, il vaut mieux faire tourner la Terre qui est petite. Donc cet argument d'économie ne suffira pas, par contre, à convaincre les médiévaux, à cause des arguments religieux, parce que nous, si on est sensible aux arguments scientifiques, les hommes du Moyen-Âge étaient sensibles aux arguments religieux. Si dans la Bible, il est écrit que la Terre est au centre du monde, c'est qu'il faut le croire. Même si ce n'est pas écrit textuellement, mais toutes les apparences sont décrites comme ça dans la Bible.
C'est argument contre conviction.
Alors, il y a aussi une sorte de hiérarchie dans le monde. Si on place la Terre au centre du monde, comme le faisaient Aristote et Platon, c'est aussi parce que la Terre, c'est l'endroit de la génération de la corruption, de ce qui est moins bon. Et le ciel, les étoiles, les planètes, c'est l'endroit où se trouvent les choses parfaites, qui ne changent pas, qui sont divines. Donc, il y a cette différence entre le monde sublunaire en dessous de la Lune et le monde qui est au-dessus de la Lune.
Et parce que la Lune, ça marquait la frontière entre les deux, puisqu'il y a des montagnes, c'est dans le ciel, mais c'est pas tout à fait parfait. C'est un peu ce qu'avait vu Galilée.
Voilà, mais au Moyen-Âge, on ne voyait pas des montagnes dans la Lune. On pensait que la Lune était une boule de cristal qui était plus ou moins bien faite, puisque les mers lunaires sont des imperfections dans cette boule de cristal. C'est pour ça que la Lune séparait le monde parfait du monde imparfait. Et certains auteurs comme Dante, par exemple, l'Italien qui a écrit la Divine Comédie, a placé le diable au centre de la Terre. Parce que où situer les enfers? Il faut bien les situer quelque part. Donc les enfers sont en dessous, au centre de la Terre. Et donc le monde est dit diabolocentrique. Il y a le diable au centre de la Terre. Après, il y a la Terre. Et après, donc, il y a les astres.
C'est pour ça que quand on va vers le diable, on dit on tombe bien bas.
Ou une descente aux enfers.
Voilà. Il y a aussi cette idée de s'élever, l'élévation de l'âme. Eh bien, c'est bien une élévation vers les aussi cieux, physique voilà. Vers les cieux.
Où tout est parfait.
Et je ne parlerai pas de grimper au septième ciel.
Où tout est parfait aussi. Alors, pendant ce court instant.
Voilà. Donc, cette connotation entre la religion et l'astronomie ne peut avoir lieu que dans un système géocentrique où on place la Terre au centre du monde, au centre de l'imperfection, et le monde parfait étant situé vers l'extérieur. C'est pour ça que quand les théories de Copernic vont être énoncées au XVIe siècle, l'Église va qualifier ces théories d'hérétiques parce qu'elles sont contraires à l'écriture et à la saine philosophie, comme on disait jusqu'à l'époque. Alors, quand Galilée va avoir ses premières observations, il aura aussi ses premiers ennuis avec l'Église, et donc on va lui dire que la Terre tourne sur elle-même, dire que la Terre tourne autour du Soleil, c'est une idée insensée et absurde en philosophie, je le dis texto, et formellement hérétique. Donc là, on n'est plus dans une différence entre religion et astronomie. C'est de l'hérésie, c'est-à-dire qu'on est contre la foi et donc on encourt les sanctions de l'Église.
Et Galilée avait vu que dans le ciel, en fait, tout n'était pas si parfait que ça, puisque Vénus avait des phases, que Jupiter avait des lunes, mais alors en plus, il pouvait emmener ses lunes avec lui, donc la Terre pouvait très bien emmener sa lune, et donc elle pouvait être en mouvement sans perdre sa lune, comme certains pouvaient le dire avant.
Voilà, donc... disons que Galilée remet en cause l'ordre du monde, C'est-à-dire la place de l'homme dans l'univers. On le pensait au centre du monde, on le pensait que c'était le but de la création. Il était à l'endroit le moins bon de l'univers, mais son âme pouvait s'élever à travers les cieux. Et remettre mettre la Terre en mouvement, la sortir du centre du monde, c'est mettre à pas, détruire tout cela, toute cette idée-là. Et c'est ça aussi des conséquences donc en religion, puisque si on n'est plus au centre du monde, on peut tout imaginer. Copernic ne l'a pas fait, mais Giordano Bruno a imaginé qu'il y avait une infinité de soleils dans l'espace. Chacun de ces soleils pouvait avoir des planètes. Ces planètes pouvaient avoir des êtres qui les habitaient, des êtres intelligents. Et donc, s'il y a des êtres intelligents, qu'en est-il du salut? Le Christ est venu sur Terre pour le salut des hommes. Qu'en est-il du salut de ces autres créatures dans les espaces
Et avec toute la cascade de conséquences qui pouvaient être tirées d'une simple idée ou d'une simple observation ou de simples observations scientifiques.
Alors pour aller un petit peu plus vite, parce que je vois que le temps passe, je voulais m'arrêter sur Blaise Pascal.
Nous ne sommes pas chez les Mayas.
Voilà. Ah non, nous sommes loin de chez les Mayas. Donc j'ai évoqué un petit peu Giordano Bruno et l'univers infini. Il y a aussi l'attitude de Blaise Pascal, on connaît ces mots, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est vrai qu'il y a cette sorte d'effroi que ressent Pascal, parce que dans cet espace infini, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de repère. On est un peu perdu dans l'immensité, et l'homme perd sa place. On n'est plus le centre de la création, on n'est plus le but de la création, mais on a l'impression aussi qu'on est un peu partout et nulle part. Et ça, Pascal est sensible à cet argument-là. Il y a une sorte de pessimisme, puisque c'est un peu la peur qui l'emporte. L'homme aussi est entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est-à-dire l'infiniment grand, c'est l'espace infini. Et l'infiniment petit, c'est le monde microscopique. Les observations au microscope permettent de voir des petites bestioles dans l'eau.
Des animalcules.
Ouais, des animalcules, voilà, comme c'est joliment dit.
C'est l'homme donc, qui avait vu ça dans sa bille de verre, qui donnera le microscope.
Voilà, et donc on pensait qu'il y avait des animaux de plus en plus petits, et Pascal pensait que même dans un atome, il pouvait y avoir un monde. La Terre pouvait être contenue dans un atome, il pouvait y avoir un monde comme le nôtre, et ainsi à l'infini. Donc on pouvait aller jusqu'à l'infiniment petit, il y avait toujours quelque chose. Donc l'homme est situé entre l'infiniment grand et l'infiniment petit.
C'est aussi parce qu'il était mathématicien que la notion d'infini est éminemment une notion mathématique.
Exactement. Donc, puisque j'ai un peu de temps, je voulais parler de la grandeur du monde, parce que finalement j'ai une minute, ça devrait suffire. J'ai parlé des épicuriens, bien eux, ils pensaient que la taille apparente des astres était leur taille réelle. Le soleil n'était ni plus grand ni plus petit que la taille qu'on lui voit dans le ciel. Ptolémée et Copernic, pour Ptolémée, le Soleil est 19 fois plus loin que la Lune et son volume est 170 fois celui de la Terre. Donc on s'imagine mal quand même dans le système de Ptolémée, la Terre est beaucoup plus petite que le Soleil et pourtant c'est le Soleil plus gros qui doit tourner autour de la Terre plus petite. Alors le système de Copernic remet un peu les choses à leur place, le plus gros est au centre et les astres comme la Terre plus petits tournent autour.
Ce qui n'est pas toujours vrai, puisque les deux tournent l'un autour de leur centre de gravité commun. Pour le Soleil et la Terre, ça ne change pas grand-chose, mais quand on a deux astéroïdes, qui tourne autour de l'autre
Ou deux étoiles.
Quand on a deux personnes, c'est pas toujours le... Bon, bref.
Exactement. Et donc, chez Ptolémée, la sphère des fixes touche immédiatement la sphère de Saturne, tandis que chez Copernic, il y a un espace immense entre la sphère de Saturne et la sphère des étoiles fixes. Et c'est cet espace immense inutile effrayait les anciens. Eh bien, j'ai 0 minute, ça veut donc dire que j'ai terminé.
Christian Scotta est un grand opportuniste au sens bon du terme. Merci beaucoup d'avoir essayé de tenir notre temps. C'est vrai qu'on a envie de vous raconter plein de choses. Et alors là, c'est vrai que le temps n'est pas extensible et infini, malheureusement, comme chez nos amis d'Amérique du Sud. Alors merci Christian Scotta pour ce point d'histoire avec l'évolution de la position de la Terre dans l'univers. Et on voit que non seulement ça change la position des astres, mais ça change notre vision du monde et surtout notre vision de l'homme. Et ça peut engendrer des conflits. Enfin, ça a modelé l'histoire de la pensée humaine. Et je crois que la science, on ne le dira jamais assez, a beaucoup changé aussi la façon de penser. des hommes. Ça a contribué, parce qu'on parle beaucoup d'histoire sociale, politique et économique, pas suffisamment, à mon avis, histoire scientifique, parce qu'on la confond avec l'histoire des techniques, alors qu'elle a aussi, la science, contribué à modeler notre façon de penser. Donc ça, c'est des choses qu'on rappellera périodiquement. Eh bien, merci Christian. Nous allons, avant de passer à la suite de cette émission, nous allons vous proposer une deuxième petite pause musicale, puisque nous avons parlé de la place de la Terre dans l'univers et que les étoiles sont finalement très loin. Nous allons aller plus près des étoiles. C'est un morceau de Gold. C'était Plus près des étoiles, un morceau de Gold qui nous a rapprochés des étoiles, effectivement. La pauvre Terre qui était perdue dans l'immensité de l'univers avec Christian Scotta, eh bien, nous allons revenir aux étoiles, mais nous allons d'abord voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme actualité dans l'astronomie aujourd'hui. C'est notre séquence Actu Astro.
Normalement, là, j'ai le droit à un jingle.
Ah oui, bah, t'as le droit à un jingle. Alors, ils ont. Le jingle.
Je ferai pas le jingle.
Il n'y a pas de jingle. Jingle. Alors, nous allons le faire.
Je ferai sans jingle.
Oui, mon cher. Alors, c'est notre ami Fabrice Dubreuil. Tu nous as préparé là, quelques nouvelles croustillantes du ciel, des étoiles, oui.
Croustillantes, je ne sais pas. Pas foncièrement très drôles. Parce que donc, cette première rubrique de l'année, elle est pour moi un peu empreinte de nostalgie. Et j'ai envie de regarder vers le siècle dernier. C'est-à-dire le XXe siècle. Mais bon, c'est bien de dire le siècle dernier.
Tout à fait, c'est le siècle dernier, oui.
En effet, janvier 2001 marque le 15e anniversaire.
C'est même le précédent millénaire.
Tout à fait. Ça nous fait vieux. Hein.
Mais oui, on avait 1000 ans, là.
Donc je disais, janvier 2001 marque le 15e anniversaire de deux événements majeurs de l'astronautique de ces dernières années. Le premier a eu lieu le 28 janvier 1986. Ce jour-là, vous vous rappelez peut-être. Après quelques secondes de vol, Challenger a explosé au-dessus de Cap Kennedy.
Je m'en souviens, j'avais un petit spectacle d'astronomie à faire dans une maison de la culture. Et ben, ça a commencé bien tristement parce qu'on venait d'apprendre la nouvelle.
Donc, cette explosion nous a rappelé en une fraction de seconde que si l'homme a conquis les étoiles, c'était grâce au courage de certains qui embarquent sur des bombes volantes et des fois perdent leur vie. L'autre événement de l'année 86, qui a eu lieu quelques semaines après l'explosion de Challenger, a été le lancement depuis Baïkonour du premier module de la station Mir. Il y a 15 ans déjà qu'elle a été lancée. Aujourd'hui, Mir a 15 ans. Et si j'ai parlé de ces deux événements aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tous les deux un impact direct sur l'actualité du mois de janvier. Mir tout d'abord. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Mir, la station russe, sera désorbitée et détruite au début du mois de mars. Normalement, c'est le 6 mars.
Elle sera détruite pour éviter justement qu'elle tombe d'un seul morceau.
Voilà, il va y avoir toute une procédure, c'est très long. J'aurais voulu vous en parler, mais là il me faudrait plus de 5 minutes de comment est-ce que ça va être organisé. Donc normalement elle tombera le 6 mars. Cette décision qui couvait depuis quelques mois et dont nous vous avions amplement parlé, il y a Daniel qui est plié de rire, je ne sais pas pourquoi.
Je suis plié de rire parce que notre technique qui est exceptionnelle d'habitude a loupé ton entrée, ton jingle, enfin quoi, c'est très important.
Bah que veux-tu ? C'est les aléas du direct.
Oui, voilà.
La défaillance du millénaire, ils ont pris un coup de vieux.
Mais nous, au moins, on le dit. Hein.
Voilà. Donc je disais que la décision de détruire Mir a sans doute été prise suite à la grosse frayeur qu'ont eu les techniciens russes le jour de Noël. Ce jour-là, pendant que nous, sur Alternante, on faisait une émission déridée. Eux n'étaient pas du tout déridés, puisque à 15h41, temps universel, les techniciens russes ont perdu contact à la station. La station Mir ne répondait plus. Et ça a duré pendant une bonne journée, parce qu'ils ont rétabli le contact à midi le lendemain, pour le reperdre aussitôt, et récupérer à 15h le 26. Pendant une journée, il n'y avait plus de contact avec Mir, donc plus aucun contrôle, plus rien.
Le 24 décembre.
Le 25 décembre, le 25. Le jour de Noël. Donc c'était la première panne générale de l'histoire de Mir. Ce sera sans doute la dernière. Et donc, un vaisseau Progress devait partir jeudi dernier de Baïkonour pour aller s'arrimer à Mir et préparer la désorbitation, le désorbitage, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs.
Et ben, je suis sûr qu'on ne dit pas du tout.
On ne dit pas du tout. Ouais. Signe du destin, il n'a pas pu partir. Peut-être que la station n'a pas envie de tomber, je ne sais pas. Enfin bon, au moment de lancer le vaisseau, le système d'orientation de la station Mir est tombé en panne. Donc impossible d'envoyer un vaisseau en automatique vers la station et le lancement aura lieu que demain. L'explosion de Challenger dont je vous parlais tout à l'heure, par contre, elle a marqué les techniciens de la NASA, tellement que quand arrive l'anniversaire, ils ont toujours un peu peur. Résultat, le lancement d'Atlantis, qui était prévu également jeudi, a été reporté pas avant le 6 février. Il n'y a pas eu qu'Atlantis qui a été reporté d'ailleurs. Ariane, le 8 janvier, et le lancement d'une fusée Zénith, le 8 janvier aussi, ont également été reportés. C'est vraiment la catastrophe en ce moment sur les lancements. Et du côté russe, c'est carrément une fusée Cyclone 3 qui a explosé le 27 décembre, en détruisant avec elle 6 satellites qu'elle emportait. Comme vous le voyez, sur Terre, l'astronautique en ce moment, c'est pas trop ça. Quittons à présent la Terre pour retrouver Galileo et Cassini, qui, profitant du passage de Cassini dans le système de Jupiter, sont livrés à un petit balai et ont réalisé des mesures qui s'avèrent déjà très intéressantes et vont sans doute ramener encore beaucoup d'autres informations, entre autres sur le satellite Ganymède, qui semble de plus en plus contenir un océan d'eau liquide en son sein. Je ne sais pas, tu peux peut-être me confirmer, Véro.
Tout à fait.
NIR, quant à elle, a entamé les manœuvres d'approche d'Eros. Eros, je ne sais pas si vous vous en rappelez, Stéphane vous en avait parlé.
C'est un astéroïde. Préciser, hein. C'est un dieu
c'est
grec,
un dieu, mais voilà.
C'est aussi un astéroïde.
C'est un astéroïde autour duquel la station NIR s'était mise, la sonde NIR, c'est pas une station, s'était mise en orbite le 14 février dernier. Et bien le 12 février prochain, elle va faire le grand saut, pour ainsi dire, puisqu'elle va aller se poser sur l'astéroïde. On n'a jamais fait ça encore, on ne sait pas, c'est l'inconnu. Peut-être qu'elle va se poser très bien, peut-être qu'elle va s'écraser, on ne sait pas. Enfin, c'est marrant de signaler quand même qu'il y a 200 ans cette année, puisque c'était le 1er et 2 janvier 1801, Giuseppe Piazzi, en haut d'un palais de Palerme, découvrait Cérès, le premier des astéroïdes. C'était il y a 200 ans maintenant, et c'est étonnant de voir que 200 ans après, on va enfin s'intéresser de plus près à ces corps encore très mystérieux. Pour finir cette actu, quelques dépêches. XMM, le satellite européen d'études des rayons X, vient d'observer la galaxie d'Andromède. Les résultats sont déjà étonnants et pourraient faire évoluer notre vision et notre compréhension du mécanisme d'évolution de galaxies.
Andromède, c'est la galaxie sœur de la Voie lactée.
Tout à fait. Une équipe d'astrophysiciens, une équipe internationale mais composée de quelques Français, vient également de découvrir, à quelques 13 années-lumière de la Terre, un corps qui pourrait bien être une naine brune. L'intérêt de cette découverte, c'est qu'une naine brune aussi près de la Terre, ça permettrait une étude beaucoup plus intéressante de ce type d'étoile qui est encore très très mystérieux. Enfin, en parlant de mystère, la seule planète non encore visitée par une sonde, c'est-à-dire Pluton, devrait finalement voir une mission lui être consacrée. Qu'est-ce qui a fait renaître finalement Pluton Express de ses cendres? C'est semble-t-il que le laps de temps entre deux créneaux pour aller sur Pluton, c'est pas comme pour Ganymède ou pour Jupiter, on peut y aller finalement tous les ans ou tous les ans et demi. Sur Pluton, quand on loupe un créneau, on peut pas retourner avant 200 ans. Donc ça fait un peu long. Donc finalement, on va décider peut-être à envoyer une sonde. Ainsi, c'est un instactu en souhaitant, comme le dit la carte de vœux de la SAN, que pour ce troisième millénaire, les hommes soient dignes par leurs actes et leurs projets de la grandeur de l'univers.
Et oui, et c'est pas gagné, comme disait l'autre. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette chronique. Alors, il y en aura des nouvelles à vous raconter, hein, parce que l'actualité scientifique est très riche. Peut-être aussi marrante que l'actualité politique, mais on nous sert toujours les mêmes plats. J'ai l'impression de manger dans une cantine quand j'écoute les nouvelles dans les télés, les radios, enfin, sauf notre émission.
Si on avait une demi-heure pour faire l'actualité, on pourrait aussi faire une demi-heure. Il y a de quoi remplir une demi-heure.
Parce qu'il y a une chose quand même qu'on vient de découvrir, dont Fabrice n'a pas parlé, c'est qu'on vient encore de découvrir des satellites autour de Saturne et de Jupiter.
C'est même la course.
Mais il y en a déjà plus d'une vingtaine, on ne sait pas
voilà,
où ça
on arrive à 30, on arrive à 29 au niveau de Saturne, donc
c'est excellent.
Ce qui commence, je dirais, à devenir très très important. Mais et on s'attend à en découvrir d'autres avec justement la fameuse mission Cassini.
Mais oui, donc, puisqu'on s'approche de Titan, voilà, on va vous raconter ça d'ailleurs, presque en direct, puisque Véronique, tu fais partie du laboratoire de planétologie de Nantes, et là on est en première ligne, si j'ose dire, puisque ce laboratoire a participé aux travaux préparatoires de cette mission. Mais on vous racontera tout ça, parce que vraiment c'est une autre épopée qui nous amènera sur Titan, peut-être à l'origine de la vie.
Avec plein d'autres actus encore.
Et à d'autres actus. Voilà, alors, nous arrivons, non pas au terme, mais au dernier thème de cette émission, Pulsan, toujours en direct sur Alternante 98.1, 91 à Saint-Nazaire. Et pour vous parler de l'événement de la semaine, je vais parler de la folle semaine de l'astronomie, juste avant la folle journée. Alors la folle journée, elle dure 3 jours. Notre folle semaine, elle dure véritablement une semaine. Alors nous, on triche pas. Et ça commence demain soir, mardi 23. Alors on a ces 5 soirées, 5 conférences, du mardi au samedi non-stop, tous les soirs à 21h au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors c'est une toute petite salle, il faut vraiment, je crois que ça a du succès, donc si vous voulez venir, venez assez tôt. Hein, ça commence à 21h, mais venez dès 20h30, c'est plus prudent pour avoir une bonne place. Et je vais vous raconter rapidement ces 5 thèmes qui seront abordés et qui sont les... les conférenciers que nous avons sollicités. Alors demain soir, mardi 23 janvier 2001, c'est Jacques Gapaillard qui va parler de la Terre. Hein, on commence par la Terre, parce que le thème, on pourrait dire, c'est de la Terre au cœur des galaxies. Vous voyez que là, on balaye très large. Alors qu'est-ce qu'on va dire à propos de la Terre? Eh bien finalement, qu'elle n'est pas ronde. Alors ça va faire bondir Christian Scotta. Eh bien non, sa conférence à Jacques Gapaillard s'appelle « Quand la Terre, c'est ça d'être ronde ». Alors effectivement, elle est ronde, mais elle est un peu bosselée, et puis elle n'est pas régulière, et c'est cette irrégularité que les navigateurs, les voyageurs, les scientifiques des siècles passés vont affiner pour avoir des pour faire des cartes, pour mesurer les espaces là, non pas le temps, parce que finalement les rois, les souverains, les pays, tout le monde était intéressé par connaître finalement la surface des pays, et pour cela, ben pour faire une cartographie, il faut connaître la longueur de l'arc de méridien avec une grande précision, les incertitudes dues aux montagnes, etc. Alors, tout cela. Ça va être raconté par Jacques Gapaillard, qui est professeur de mathématiques à Nantes, à l'Université de Nantes, et qui est également au centre François Viette, et qui est l'auteur d'un livre absolument merveilleux qui s'appelle « Et pourtant elle tourne », avec tous les arguments qui ont été développés pour contrer Galilée, justement, qui disait que la Terre tournait autour du Soleil, et puis enfin et que la Terre n'était pas unique en quelque sorte. Alors ça, c'est la première conférence. Ça va être très très passionnant parce que l'équipe de Nantes est vraiment en pointe en histoire des sciences. Hein, je vous en dis pas plus. C'est donc demain soir avec Jacques Gapaillard et la Terre, c'est ça. Quand la Terre, c'est ça d'être ronde. Mercredi 24 janvier. Eh bien là, un autre professeur de Nantes, justement l'ancien directeur du laboratoire de planétologie, Christophe Sautin, qui est un Nantais d'origine, qui a travaillé à l'Institut de physique du globe, qui est devenu l'un des premiers scientifiques au monde en planétologie. C'est un géologue au départ. Et en fait, on s'aperçoit que l'histoire des planètes et la façon de les comprendre, les planètes rocheuses notamment, mais aussi les planètes géantes gazeuses et surtout leurs satellites, requièrent la science des géologues qui, eux, savent interpréter les structures, comprennent l'évolution des roches, c'est-à-dire l'évolution des planètes, ce qui nous apprend beaucoup plus sur notre Terre. Et de quoi va parler donc Christophe Sautin? Il va parler à la recherche de l'eau dans le système solaire. Alors c'est Mars, Europe et les autres. Alors il avait commencé par Europe, par étudier les glaces de ce satellite de Jupiter, s'apercevoir qu'il y avait un océan gigantesque liquide en dessous d'une gigantesque banquise et que peut-être là-dedans, on allait trouver une forme de vie comme on avait trouvé dans les grands fonds océaniques à partir de chimiosynthèse. Alors ça, c'est toute une histoire. Alors on va déjà raconter, je pense, au cours de cette conférence, où est-ce qu'il y a de l'eau, sur quelle planète, sous quelle forme se trouve-t-elle, parce que sur la Terre, elle est liquide, gazeuse et solide, ça c'est fabuleux, puisque ça permet la vie, mais sur d'autres planètes, elle est également présente, sous une forme soit gelée comme Mars, soit totalement sous forme de vapeur d'eau sur Vénus. Alors, l'eau, elle a un rôle aussi pour piéger le gaz carbonique et diminuer l'effet de serre. Et si tout le gaz carbonique des océans partait dans l'atmosphère, eh bien, on serait un peu comme Vénus, et on serait cuit 500 degrés. Mais déjà, je vais pas faire sa conférence à Christophe Sautin. L'intérêt de cette recherche de l'eau, c'est de savoir, en fait, où est-ce qu'on pourrait trouver de la vie, et c'est ce qu'il y en a eu ailleurs, et quelles sont les possibilités, donc racontées par mercredi 24 janvier par Christophe Sautin. Nous arrivons jeudi 25 avec quelqu'un d'étonnant également un ancien Nantais, alors ça c'est un peu le hasard de notre programmation, il s'agit de Jacques Lascar. Donc Jacques Lascar va parler du chaos et organisation des systèmes planétaires. Alors le chaos, on peut en dire deux mots très très rapidement. Ça vient du grec, chaos, hein, on a assimilé ça à un grand désordre, mais en fait, pour les Grecs, c'est ce qui précédait à la structuration de l'univers. Pour les Grecs, c'était pas forcément le désordre, c'est plutôt quelque chose qui précédait, qui préexistait, et tout cela allait s'auto-organiser en quelque sorte, ou s'organiser. Et alors, ce chaos, c'est quoi de nos jours? C'est tout simplement que, eh ben, il y a des choses qu'on peut prévoir facilement. Quand on a, par exemple, un corps qui influence un autre corps, hein, la mécanique céleste est relativement précise. Dès qu'on en met trois, et dès qu'on en met une foultitude, comme dans les systèmes planétaires ou les systèmes de particules, eh ben, ça devient imprévisible. C'est-à-dire que, finalement, deux particules, trois ou quatre particules peuvent donner quelque chose de totalement imprévisible, en tout cas sur la durée. Ça, c'est pas grave quand on a affaire à des molécules, parce qu'on peut statistiquement étudier une température ou d'autres choses qui sont le résultat d'un ensemble de particules. Mais quand il s'agit de systèmes planétaires, surtout quand il s'agit de notre petite planète, on aimerait quand même savoir si tout cela, ça va durer, si le système solaire est stable. Réponse de Jacques Lascar, non. Il est stable à 4 millions d'années. À 20, ça devient plus compliqué. Et à 50 millions d'années, il est totalement instable. Et ce qui nous maintient un petit peu sur les rails, pourrait-on dire, c'est notre brave Lune, à qui l'on doit d'avoir une orbite quand même beaucoup plus stable que ce que l'on pourrait prévoir par les calculs de Chaos. Et alors, dernier mot sur le Chaos, Jacques Lascar nous apprend effectivement que des toutes petites perturbations de rien du tout, hein, par exemple, les satellites de Jupiter ou de Saturne qu'on découvre tout le temps, comme on ne sait pas où ils sont, ben on ne pouvait pas prévoir leur mouvement. Mais ces petites choses-là, ça fait bouger très peu. C'est une mouche sur un bulldozer, mais ça change un petit peu. Et sur 50 millions d'années, ça peut tout changer. Donc voilà, le Chaos et l'équilibre des systèmes planétaires et également comment est-ce que ces systèmes planétaires se structurent. Ça, c'est Jacques Lascar, jeudi soir, jeudi 25 janvier, toujours 21h, au Muséum d'Histoire Naturelle. Vendredi 26, là nous arrivons aux galaxies. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des galaxies? Quelque chose d'assez monstrueux, c'est un trou noir. Et il faut savoir qu'au cœur de la Voie lactée, il y a un gigantesque trou noir. Alors on se rassure, il n'est pas prêt de nous avaler, justement parce qu'il est très gros. Et quand ils sont très gros, ils attirent moins. Et toutes ces choses-là, c'est Suzy Collin, qui est astrophysicienne à Meudon, qui va nous l'apprendre. Alors, Suzy Collin est une spécialiste de ces choses gigantesques, et notamment des quasars. Elle a beaucoup étudié les quasars, qui sont ces quasi-stellar objects, je crois. Ça s'appelait aussi les QSO. Hein, mais les radioamateurs, pour eux, le QSO, ça veut dire autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on a abandonné le sigle QSO et qu'on appelle ça maintenant les quasars. Alors, les quasars, c'est quoi? C'est des cœurs de galaxies gigantesques qui sont la seule chose que l'on voit à 10 milliards d'années de distance. On ne voit plus que le cœur de ces galaxies. Et c'est pour ça que, un, ils sont très lumineux, deux, c'est très loin, donc c'est très petit, et on a assimilé ça à des objets stellaires, d'où le terme quasi-stellar. Et quasi-stellar quoi? Quasi-stellar, radio-source, tellement c'est loin qu'on n'en perçoit que les ondes radio. Bien, mais cette étude des quasars, ça donnait quoi? Ça donnait toute la connaissance de l'univers très ancien, puisqu'ils sont très loin, ils nous révèlent le passé, peu après la naissance de l'univers, où se déroulaient des phénomènes extrêmement violents. Et ces phénomènes violents, ben, on les connaît mieux grâce aux quasars, et maintenant on peut les étudier à l'intérieur des galaxies, des tranquilles galaxies comme la Voie lactée. Toutes ces choses effrayantes et en même temps magnifiques, racontées par Suzy Collin, vendredi 26 janvier. Et enfin, samedi 27, donc samedi prochain, nous ne quittons pas notre galaxie, mais des choses beaucoup plus réjouissantes. C'est la fin de la semaine de l'astronomie samedi. Le printemps approche. On va vous parler du Soleil. Le Soleil au maximum d'activité. Bah oui, le Soleil, c'est une étoile. Puis c'est pas une étoile stable. C'est une étoile, si on dit variable, on va exagérer un peu pour un astrophysicien. Le Soleil, c'est quand même pas une étoile variable. Enfin, on n'en est pas loin. Il y a des petits sursauts d'activité, il y a des éruptions, il y a des phénomènes extrêmement violents. Faut se souvenir que le Soleil, il fait 1,3 million km de diamètre. C'est trois fois la distance de la Terre à la Lune, c'est quand même pas rien. C'est un gros truc. Hein. Et puis quand ça bouge, ça fait des vents solaires, ça fait des aurores boréales, ça peut faire des perturbations radio, ça peut faire plein de choses. Et l'étude du Soleil, finalement, ça nous permet de mieux comprendre les étoiles. Et à l'inverse, l'étude des étoiles, ça permet de mieux comprendre le Soleil. Vous voyez que l'astronomie, c'est on pourrait dire un grand tout. Alors voilà, donc c'est 5 soirées, 5 conférences. Hein, je les rappelle rapidement. Mardi, Jacques Gapaillard, la Terre cessa d'être ronde. Mercredi 24, à la recherche de l'eau dans le système solaire par Christophe Sautin. Jeudi 25, chaos et organisation des systèmes planétaires par Jacques Lascar. Vendredi 26, des trous noirs géants au cœur des galaxies par Suzy Collin. Samedi 27, le Soleil au maximum d'activité par Jean-Paul Zahn. Venez tôt, parce que la salle est petite, ça sera à l'amphithéâtre. C'est un très beau lieu pour cette petite fête de l'astronomie que nous avons inaugurée en 1991. Nous avions à l'époque 20 ans. Et on s'est dit, on va faire un petit pari, on va faire un petit marathon. Bien, vous voyez, il a tenu 10 ans, et puis il n'est pas prêt de s'éteindre, comme le soleil d'ailleurs, mais peut-être pas pour 5 milliards d'années, je vous rassure. Mais ça sera une petite fête que nous fêterons tous ensemble, et pour cette année, les 30 ans, la Société d'Astronomie de Nantes. Alors...
Bon, mais de toute façon, tu parlais de 5 milliards d'années pour le Soleil, puisque tu as dit tout à l'heure que Jacques Lascar dit lui-même, d'ici 50 millions d'années, on ne voit pas trop l'avenir de notre système solaire. 5 milliards, 50 millions d'années, de toute façon, on ne sera pas là pour voir ça.
Oui, en tout cas, il n'y aura peut-être plus de semaine de l'astronomie dans, voilà. dans 5 milliards d'années.
Quoique.
Donc voilà, c'était notre émission Pulsan. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée, puisque nous avons 3 petites minutes pour faire une conclusion. Alors, ce qu'on essaie de vous faire, c'est de vous montrer d'une part que la science, c'est quelque chose qui est toujours vivant, qui est toujours en pleine évolution. On confond souvent la science avec l'évolution de la technique. J'ai lu récemment que quelqu'un se plaignait que dans l'histoire des sciences, on voyait une dérive où la technologie prenait de plus en plus le pas sur la technique. Comme beaucoup de gens confondent les deux termes, on peut peut-être rappeler que la technologie... c'est l'étude des techniques et c'est devenu un peu l'amour de la technique pour la technique. Vous avez des technologistes, ils aiment en parler, ils développent des choses pour l'amour de la technique, alors que la technique, c'est avant tout au service de la connaissance. La technique, c'est quelque chose qui doit nous permettre de mieux penser. Hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette science, elle se construit tous les jours avec l'activité des scientifiques, qu'ils soient professionnels, maintenant c'est essentiellement des professionnels, autrefois c'était beaucoup des amateurs. Et puis, mais dans le passé, elle s'est construite également, et je crois que nous avons beaucoup de leçons à prendre du passé, hein, vous l'avez vu avec la connaissance des temps, que ce soit les Mayas, que ce soit les Égyptiens, et puis avec l'univers aussi de... pardon, l'univers, les progrès de l'astrométrie avec Galilée, enfin, quand on a replacé le monde, quand on a retourné l'aspect du monde et que ça a changé notre mode de pensée. Alors, on a des petits commentaires, peut-être, avant la fin de cette émission, les uns ou les autres.
Oui, justement, puisque tu parlais un petit peu des technologies, des techniques, ce qu'il faut dire un petit peu sur la semaine de l'astro, c'est que les gens vont pouvoir découvrir... la connaissance, mais la dernière, vraiment, découverte, puisque ce sont que des professionnels qui sont là, oui. Et qui sont à chaque fois, je dirais, au top dans leur domaine. Donc, c'est vraiment les dernières découvertes, c'est vraiment comme les actus astro, mais je dirais au niveau scientifique.
J'ai entendu sur France Culture, on peut le citer récemment, que l'Université de Tous-les-Savoirs avait fait le pari... Non, c'est à la télé que c'était dit. De proposer au public non plus des médiateurs, des intermédiaires, des journalistes, aussi bons soient-ils, mais directement des acteurs, des scientifiques qui avaient fait les découvertes, qui allaient venir parler au public. C'est un peu le pari qu'on a fait à la Société d'Astronomie à travers ce cycle de conférences, de faire venir non pas de grands conteurs, non pas des gens qu'on voit sur les plateaux de télé souvent et qui ne font que ça, mais des gens qui sont dans la recherche, qui sont actifs. Hein, qui sont en train de faire des découvertes, qui en font comme au laboratoire de planétologie.
Qui sont vraiment au cœur, je dirais, de la science et des découvertes.
Absolument. Donc ça, c'est ça aussi le plaisir. Je crois que le public l'a compris, ça fait maintenant des années, que les gens, ils se rendent compte que la science, c'est vivant, que ce n'est pas des certitudes, que ce sont, par contre, que c'est le domaine de la grande honnêteté, quand même. C'est un air pur et vivifiant qu'on respire sur les cimes de la science.
Et ce qui est fabuleux, c'est que dès qu'on ouvre une porte, eh ben, y en a une autre qui est derrière, et puis on essaie toujours d'ouvrir la suivante.
Alors, merci à tous. Juste un petit mot, parce que la dernière fois, on vous a parlé de Romer, l'expérience de Romer, et on m'a signalé que Romer n'avait pas véritablement mesuré la vitesse de la lumière, mais il avait simplement acquis la certitude par ses expériences que la vitesse de la lumière était finie, et qu'en fait, il en avait donné une approximation qui était 215 000 km/s. Alors, on vous reparlera de ce point-là, on reprécisera cela. Voilà, je voulais remercier tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Véronique Dubois, Christian Scotta, Fabrice Dubreuil. Nous avions Frédéric Cavagnier pour la rubrique, et puis pour l'histoire. Et puis, à la technique, Jean. 2-4 bars, mais il n'en a pas encore parce qu'il est très jeune. Avec également Frédéric. Voilà. Et Thierry n'était pas là. Donc voilà, l'animation, hein, elle était moins marrante que quand Thierry est là. On l'a remplacé comme on a pu. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Donc nous serons le lundi 5 février. J'avais peur que... Non, c'est ça ?
C'est pas encore.
Regardez, pas le prochain lundi, mais le prochain. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission Pulsan. Et à la prochaine fois sur 98.1. Et n'oubliez pas, à la Saint-Vincent...
Il pleut tout le temps.
Il pleut tout le temps.